Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Pour intervenant au micro et pour entrer, je dirais, dans ce mystère de cette célébration de Noël, grande fête, c'est un dominicain. Et bonjour, Frère Sylvain de
Toc. Bonjour, Nathalie.
Ravi de vous retrouver. On va faire la fête encore aujourd'hui.
Merci.
Sur nos radios chrétiennes. Je rappelle que vous êtes théologien, que vous enseignez les pères de l'Église à l'Institut catholique de Toulouse. Et si on veut encore, à quelques jours de Noël, faire des cadeaux pour ses proches, eh bien, vous avez écrit tout récemment deux ouvrages assez récents, La gloire des bons à rien, qui a eu un grand succès paru aux éditions du Cerf, et ce dernier intitulé Déjà brillent les lumières de la fête aux éditions du Cerf. Donc des cadeaux peut-être, des livres à offrir d'ici 2-3 jours. N'hésitez pas, chers parents et grands-parents. Alors on va faire la fête avec vous, Frère Sylvain.
Ça me plaît bien, Nathalie, comme programme.
Ça vous plaît bien, je veux bien préparer. Préparons les cœurs, je dirais, de nos auditeurs, en particulier des parents. Pour entrer, je dirais, dans cette fête de Noël qui est tout ce mystère de Jésus, ce mystère de la crèche. Alors qu'en est-il et comment se préparer en famille quand on est parents et grands-parents? Des moments de fête, mais des moments aussi de douleur.
Bon, je crois que les auditeurs qui nous ont peut-être écoutés au cours de la séance de la semaine dernière, l'émission de la semaine dernière, ont pu peut-être s'inquiéter d'une approche un peu par l'extérieur de la fête. Quand je parlais de la pastorale des étudiants, des jeunes, c'est vrai qu'on met le paquet sur cette dimension de la convivialité, son expression festive. Mais attention, la fête, elle jaillit du cœur, elle vient du dedans. Sinon, ce ne sera que de l'esbrouf, si vous voulez, et le lendemain, il ne reste rien. On peut bien s'exciter un peu avec quelques euphorisants, on connaît tous ça. Après, il y a l'effet lendemain de fête, pour rester poli. Pour ne pas dire gueule de bois. Et au fond, quelque chose qui donne l'impression d'une petite dépression après un moment de joie, d'effervescence, d'euphorie. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une fête qui procède du cœur, qui vient du dedans. Et là, je crois que la fête de Noël a quelque chose à nous enseigner. Parce que la fête de Noël, précisément, elle déborde d'une joie exubérante dans les premières pages de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Luc, qu'on a lu dans ces jours qui nous ont préparés à la fête de Noël. On est en plein dans ce temps-là, la semaine préparatoire à Noël. Et Luc, par exemple, c'est l'évangéliste de la joie. Et donc, la joie du ciel qui va déborder dans ce petit garçon, dans ce nouveau-né déposé dans une mangeoire, eh ben, c'est d'abord la joie qui déborde dans le monde des anges. Et les anges à Bethléem le montrent bien, ils s'en donnent à cœur joie, ils chantent la gloire de Dieu, ils veulent la paix sur la terre pour les hommes que Dieu aime. Petite parenthèse, dans la règle de saint Augustin, qui est la règle que les dominicains ont reprise, saint Augustin dit que nos cœurs doivent être accordés à ce qu'on chante. Bah, quand on chante le Gloria à la messe ou quand on chante le Sanctus, ce sont des chants où on doit laisser éclater la joie. C'est normal qu'il y ait des instrumentalisations peut-être plus festives avec d'autres instruments de musique, pourquoi pas que l'orgue ou que le seul orgue pour ces chants-là. Il n'en va pas de même pour des chants ou au contraire, on demande pardon, on prend davantage la mesure de la gravité de notre péché, de ce qu'il peut y avoir aussi de fragile et de pathétique dans la vie chrétienne, comme dans un rite pénitentiel, très bien. Mais quand on chante un chant qui célèbre avec les anges la gloire de Dieu, on met le paquet, on y va, on accorde nos cœurs au contenu de ce chant autant que possible. Ça, c'est saint Augustin qui le dit, c'est pas moi, j'oserais pas, vous imaginez bien. Alors la joie du ciel, elle déborde dans le monde des anges, elle déborde chez Zacharie et Élisabeth avec le petit Jean-Baptiste, l'enfant qu'on n'attendait plus. Elle déborde en Joseph et en Marie, ce sont des ricochets d'évangiles, tous ces mystères joyeux du rosaire, ou ce que nos frères franciscains appellent les joies de Marie, sept joies de Marie. On connaissait les sept douleurs de Marie, c'est bien aussi de pratiquer
aussi les
sept joies de Marie. Merci aux franciscains de nous avoir rappelé cet usage. Mais Noël, c'est une joie débordante, exubérante. Pensons aussi à Siméon et Anne. Pensons à tous ces, voilà, tous ces témoins des évangiles de l'enfance. Et en même temps, bah, les évangiles de l'enfance, ce sont des évangiles où cette joie, elle est encore retenue parce qu'on comprend pas trop ce qui se passe. On se pose des questions, hein, les questions de Marie à l'Annonciation. Mais comment cela va-t-il se passer? L'inquiétude de Joseph, hein, avant le songe déterminant qu'il va avoir, parce qu'il était bien embarrassé de voir cette jeune femme, son épouse, déjà enceinte et pas de lui. Et donc, il a dû se faire des films, le pauvre Joseph. Il faut que l'ange du Seigneur intervienne dans sa vie pour lui expliquer que cet enfant, c'est le fruit de l'Esprit-Saint en Marie. Hein. Mais que d'inquiétude aussi, on imagine, lorsqu'il a fallu aller se faire recenser à Bethléem. Donc vous voyez, chers amis, chers parents en particulier qui nous écoutaient, et ça vaut aussi bien sûr pour les grands-parents, hein, la joie de Noël, elle est sous-tendue par bien des inquiétudes dans l'histoire de la Sainte Famille, bien des incompréhensions. Tout n'est pas rose. Hein. Et pourtant, il y a une joie qui vient d'en haut, qui vient d'ailleurs, qui vient d'au-delà de nous. C'est un peu pareil dans nos familles. On va se retrouver ensemble pour fêter Noël. On a des appréhensions, des inquiétudes, peut-être même déjà de grosses déceptions, de grosses souffrances parce que y a tel enfant qui ne viendra pas ou tel petit enfant qui est fâché avec ses parents ou avec ses grands-parents. Des situations familiales qui sont devenues difficiles et qu'on n'arrive pas bien, il faut le dire aussi, à accueillir et à assimiler à une famille chrétienne. Par exemple, c'est pas simple. Donc, vous voyez, chers amis, franchement, la joie de Noël, c'est pas les ravis de la crèche. Hein. Si on veut jouer à ça, faire semblant que tout va bien et voilà, Jésus est né, alléluia, ça va pas résoudre tous nos problèmes. Il faut pas se faire d'illusions. Hein. Moi, je prêche, vous le savez, Nathalie, vous avez lu La gloire des bons à rien.
C'est pour ça que je vous reçois aussi. Hein.
Et je prêche toujours en faveur de ce réalisme spirituel.
Alors, quand on parle de joie, et c'est bien, vous revenez, je dirais, à ce mystère, je dirais, du monde d'aujourd'hui où des hommes et des femmes, des familles, des enfants, des parents, des grands-parents sont parfois en souffrance. Je pense à ceux qui vont vivre un Noël en famille avec le deuil d'une maman, le deuil d'un papa, la perte d'un enfant. Ne les oublions pas. Donc, comment rester dans la joie après l'épreuve d'un deuil, après l'épreuve peut-être d'une terrible maladie, c'est aussi la joie, je dirais, à l'approche de cette période de Noël, puisqu'on parle de famille, on parle d'enfants, de parents, de grands-parents, permettez-moi, mais il y a aussi cette joie parfois discrète, mais profonde et quelque peu parfois surnaturelle, la joie de la réconciliation. Alors, je dirais, joie de se réconcilier, peut-être à travers des sacrements comme le sacrement de réconciliation que donne l'Église. Et puis, double joie, hein, la joie de se réconcilier avec un parent, un proche, un cousin, un frère. Hein.
Mais bien sûr, Nathalie, merci beaucoup de m'inviter à parler de ce thème. Évidemment, dans l'Évangile, la réconciliation, elle s'exprime, elle culmine dans la fête. Je crois qu'on fête pas assez la réconciliation. C'est le sacrement de la pénitence, la confession, le sacrement de la réconciliation. Mais c'est une fête de se réconcilier avec Dieu. Donc Noël, Pâques, les autres grandes fêtes liturgiques, c'est effectivement le bon moment de se réconcilier, mais peut-être de garder à l'esprit ce qu'on lit dans l'évangile de Saint-Luc, là encore, hein, Luc 15, les trois paraboles de la miséricorde, elles ont un dénominateur commun. Chacune s'achève par une fête. On fête la réconciliation dans l'évangile. Il y a plus de joie au ciel, dit Jésus, pour un seul pécheur qui se réconcilie avec Dieu, qui se convertit, hein, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de cette réconciliation ou de cette conversion. Hein. Vous rappelez ces paraboles, la plus connue, bien sûr, c'est le fils prodigue, mais c'est la troisième. Elle s'achève dans une très grande fête avec, s'il vous plaît, un repas extraordinaire, la meilleure bête du troupeau, hein, le veau gras qu'on a fait tuer pour fêter par un festin le retour du fils prodigue, les musiques, les danses, les instruments de musique, etc., les chants, c'est extraordinaire, cette fête de la fin de la parabole du fils prodigue. Et puis, avant, il y a deux petites paraboles, on y fait peut-être moins attention. Mais deux petites paraboles qui vont aussi s'achever par une fête. Hein. C'est la brebis perdue. Bah, le pasteur, quand il a retrouvé sa brebis perdue, il appelle tous ses amis, tous ses collègues, les voisins, et il fait la fête, il est tellement heureux, ça se partage la joie, le bonheur d'avoir retrouvé celui qui était perdu. Et puis il y a la parabole après qui va davantage parler à l'époque de Jésus aux femmes qui sont à la maison, et la femme qui cherche dans sa maison la pièce de monnaie, une grosse pièce de monnaie, hein, un petit trésor qu'elle avait perdu, et puis il se trouve qu'en mettant sa maison sens dessus dessous pour la ranger et la nettoyer, elle retrouve cette pièce, elle est dans une joie tellement grande qu'elle invite toutes ses amies, ses copines, ses voisines pour faire la fête. Ben, je crois qu'ici, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'ADN de notre foi chrétienne. Il faut célébrer la réconciliation. Donc, évidemment, la réconciliation avec Dieu, fêtons-la cette réconciliation. Mais fêtons aussi la réconciliation entre nous. Quand nous arrivons à nous réconcilier, et là encore, ne faisons pas les ravis de la crèche. Nous savons que ces réconciliations, elles ne vont pas se faire tout de suite, instantanément. Mais il y a des réconciliations qui se font à travers le temps et qui un jour, quand c'est l'heure de Dieu aussi, du passage de la miséricorde dans nos vies, ces réconciliations, elles se font. J'ai plusieurs exemples, au moment où je vous parle, ça me revient à l'esprit d'amis, de personnes avec des enfants fâchés. Et puis pendant des années, on ne s'est pas parlé, on ne s'est pas adressé la parole. Et puis voilà qu'un jour, le téléphone sonne, et qu'à la faveur d'un événement, quelque chose se débloque tout à coup. Hein. Puis les événements, ils sont dans la main de Dieu, de sa providence. Donc il ne faut pas désespérer de ces réconciliations qui peuvent advenir tôt ou tard. Et parfois même très tard, au moment où on ne l'imagine plus. Combien d'histoires, Nathalie, je suis sûr que vous avez reçu bien des témoins à votre antenne, personnes qui disent, voilà, un grand-père, une grand-mère, une vieille tante, etc., qui allait décéder. Et c'est comme si elle avait attendu cette personne, la visite, qui permettait de dénouer un nœud, d'apporter de la paix, de la réconciliation, là où il y restait encore des colères, des amertumes, de la discorde, des péchés de ce genre. Et voilà qu'enfin réconcilié, on peut partir en paix. Je crois que Noël, c'est par excellence le moment où on va pouvoir essayer de vivre ça. Mais ça suppose aussi peut-être que chacune et chacun mette de l'eau dans le vin de Noël. Hein, et qu'on n'exige pas des uns et des autres, hein, ça marche dans les deux sens, hein, les enfants pour leurs parents, leurs grands-parents, les grands-parents, les parents pour leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'on sache aussi peut-être actionner un levier auquel le pape François nous demande de penser si souvent, c'est celui de la tendresse, celui de l'affection, hein, d'être capable d'envelopper d'affection et de tendresse les personnes que nous aimons, même quand on s'aperçoit que on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde.
Un dernier mot en conclusion pour tous ces parents, ces grands-parents qui se préparent certainement à vouloir accueillir peut-être cette famille, ces enfants ou ces enfants qui ne viendront pas ou ces petits-enfants qui ne répondront pas à l'invitation autour de cette fête, certes chrétienne, mais aussi une fête de famille.
L'audace de la joie et de la fête. On parlait la semaine précédente du commandement de la joie et de la fête. C'est aussi beaucoup d'audace que de manifester cela. Moi, je l'ai vécu dans ma famille. Vous savez, j'ai perdu mon père il y a plus de 20 ans. J'étais un tout jeune homme. Ma maman a été veuve très jeune. Ça s'est passé quelques jours avant Noël. Eh bien, si on n'avait pas fêté Noël cette année-là parce qu'on était en deuil, est-ce que le fait de s'abstenir de la fête nous aurait apporté plus de consolation? Non, je ne crois pas. Et merci encore aux personnes qui, dans ces moments-là, nous ont entourés et ont été pour nous les leviers de la joie et de la fête, parce qu'ils ont eu cette générosité à notre égard qui nous a permis de franchir ce premier seuil, puis d'autres encore après, parce que le deuil, ça se fait pas en une semaine ou en quelques semaines ou quelques mois, mais ceux qui, dans ces moments-là, nous entourent de leur affection et la manifestent, cette affection, par la joie et la fête, en réalité, ils nous rendent de grands services.
Ah, merci infiniment de terminer aussi par un témoignage personnel. Frère Sylvain de Toc, eh bien, je vous invite à la fête la semaine prochaine. Nous serons dans ce moment aussi après Noël, la semaine du temps de l'octave. La fête se poursuit avec tous les saints du ciel. Frère Sylvain de Toc, à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et merci.
Merci Nathalie.